cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bienvenue dans Cultivons notre jardin. Nat et Jackie, toujours au rendez-vous, fidèles au poste, pour vous parler de jardinage au naturel, mais pas que. Salut Jackie.
Bonjour, comment ça va ?
Ça va bien, merci, et toi ?
Eh bien écoute, ça va bien parce que, comme je disais la dernière fois, tout est fait au jardin, puis maintenant tout va bientôt être fait pour l'année. J'ai fait ma commande au Père Noël et maintenant j'attends ça avec grande impatience.
Bien, tu hibernes un peu quand même ?
Non, pas du tout. J'ai bien profité de ces fêtes de Noël, je pense, en famille.
Voilà, et bien comme à Cultivons notre jardin, nous vous parlons de jardinage au naturel, mais pas que. On essaye d'avoir des sujets qui débordent un peu en termes d'écologie, d'environnement. Ben, comme c'est la période des fêtes de Noël, on voulait vous raconter quelques trucs à ce sujet-là. Hein, qu'est-ce que t'en dis, Jackie ? T'as des idées, toi ?
Ah ben oui, il y a deux trois idées, il y a des choses à dire par rapport à cette fête-là,
oui.
Qui peut prendre un sens complètement différent selon qu'on est un ultra consommateur ou selon si on fait un petit peu attention à tout ça.
Que l'on est croyant ou non aussi, quand même, parce que n'oublions pas qu'il s'agit bien d'une fête religieuse au départ.
Il y a ce volet-là, bien sûr. Et puis il y a la présence des petits-enfants, de tout ça. Ça me fait bien plaisir. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'en reviendrai un petit peu à l'historique, non seulement de cette fête chrétienne, mais là, c'est pas trop notre raison d'être là, mais la bûche de Noël, par exemple, là, la bûche.
Ça, c'est un peu plus intéressant,
voilà,
déjà.
La bûche, on est dans notre sujet, parce que maintenant, la bûche de Noël, c'est un gâteau, voire un gâteau glacé, ou sous toutes ses formes. Or, à l'origine, la bûche de Noël, c'était un morceau de bois. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait une bûche.
Ah, ça devait être beaucoup moins bon, quand même.
Oui. Non, mais quand les gens se rassemblaient au moment de Noël, il faisait froid. Et donc, quand on faisait une veillée tous ensemble pour Noël, chacun amenait sa bûche pour mettre à la cheminée. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec un dessert.
Chacun amenait sa bûche. Bon, s'il y a des gens qui jettent la bûche de Noël au feu cette année, vous inquiétez pas, ils respectent la tradition, c'est tout.
Voilà. Donc, c'était une certaine forme d'écologie pratique. On brûlait du bois. Et en fait, si on voulait prolonger la soirée, bien évidemment qu'il en fallait du bois dans la cheminée.
Et puis surtout, si chacun amène sa bûche, ça en fait beaucoup
moins. Ça en fait beaucoup.
Pour la personne
qui
reçoit,
beaucoup moins,
chacun fait un peu.
Et bon, moi, j'ai un âge un peu canonique maintenant, ce qui me permet de pouvoir dire quand même que quand j'ai commencé à l'école...
T'as connu le Père Noël, toi, Jackie ?
Non, tu cherches. Son père. Et quand, moi, dans mes premières années d'école, ça se faisait encore, on avait le poil rond au milieu de la classe, et les enfants amenaient des bûches. Parce que
pareil,
ça permettait aussi. L'éducation nationale a toujours pleuré de ne pas avoir assez d'argent.
Ah.
Et nous, on amenait aussi des bûches pour le poêle, simplement pour se chauffer pendant l'hiver. Ça n'avait rien à voir là avec la fête de Noël précisément.
Non.
Mais enfin, c'est quelque chose qui existait, qui doit étonner beaucoup les générations actuelles. Mais c'est pas si vieux puisque je suis encore vivant.
Ouais, on est bien d'accord. Donc en fait, toi, Jackie, quand tu étais petit, ce qui pesait lourd dans le cartable, c'était pas les manuels scolaires, c'était les bûches.
Voilà,
pour chauffer la classe.
Ceci explique peut-être cela.
C'est ça. D'accord. Bon, c'est sympa cette petite historique de la bûche de Noël, Jackie.
Voilà.
Merci.
Alors après, on pourrait embrayer un petit peu là-dessus, parce que on a quand même un petit côté au niveau de la consommation. Moi, je trouve que c'est un petit peu la consommation à outrance, Noël.
Ouais.
Et on pourrait justement essayer d'aborder des sujets pour se dire, et si on réfléchissait avant de faire, peut-être que la première des choses, c'est le sapin de Noël. Comment on fait le sapin de Noël ?
Ouais. Je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le coupe ? Est-ce qu'on l'achète ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Voilà. Alors là, il y a vraiment... c'est l'affaire de chacun, bien sûr.
Bien sûr.
La première des choses à dire, c'est que je ne vais pas, absolument pas, dans la nature, chercher un sapin de Noël.
On ne va pas se servir.
C'est interdit par la loi.
Vous n'avez pas le droit.
Je ne suis pas chez moi. Si j'en ai un dans mon jardin et que je veux le couper, je peux. Mais même en pleine nature, même quand il n'y a pas de maison autour, je suis toujours chez quelqu'un.
Voilà.
Et en plus, même si c'est domanial, si c'est voilà. public, etc., je n'ai pas le droit.
Non, même une forêt communale, ce n'est pas parce que vous habitez la commune que vous pouvez y prélever des choses comme ça de votre propre chef.
Qu'on se le dise.
Qu'on se le dise. Donc voilà, bon, ça c'était alors, si vous voulez mettre un arbre vrai. Est-ce que c'est bien de mettre un arbre vrai, un vrai sapin pour Noël? Qu'est-ce que tu en dis, toi, Jackie?
Alors, il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est très difficile d'être catégorique. Et puis, ça ne nous appartient pas. Simplement d'essayer d'en discuter avec les auditeurs, puisque c'est une forme de discussion quand même, je trouve. Le gros avantage d'un sapin, c'est l'odeur. On s'en souvient toujours, quand on était petit, l'odeur dans la maison. Alors, il faut savoir que c'est de l'épicéa le plus souvent. Sapin de Noël. En fait, les sapins, l'origine, c'était dans les Vosges, parce qu'ils étaient proches aussi de la Belgique, avec Saint-Nicolas, etc. Et on avait des fêtes de fin d'année comme ça. Et en fait, dans les Vosges, on a des vrais sapins. C'est-à-dire, je vais te redire un nom botanique, mais ce sont des abies. C'est-à-dire que ces sapins-là ont des feuilles plates, vernissées, vert foncé au-dessus, plutôt grises en dessous. Ils ne piquent pas au bout. Donc, on a des rameaux qui sont plats comme ça. C'est très, très élégant. Et la sève sent très bon.
Nous, en Lozère, c'est plutôt des pins qu'on a. C'est pour ça que Jackie dit que c'est des vrais sapins là-bas.
Voilà. Alors, nous, on a des pins. Les pins, c'est un peu dégarni. Donc, ce qui s'est beaucoup vendu comme sapin de Noël, c'est l'épicéa. Donc, qui est le sapin de Noël le plus courant, comme ça, avec ses petites aiguilles qui sont un petit peu piquantes. Mais surtout, c'est un arbre qui est très fourni en branches et en feuilles. Donc, à partir de là, voilà. Ça, l'avantage, c'est qu'il y a l'odeur. Après, il y a eu des gens qui le prenaient coupé ou avec des racines, en pot. Alors, par expérience, les coupés, surtout l'épicéa, au bout de 15 jours, toutes les aiguilles sont par terre. Ce qui ne se passe pas avec l'abies. L'abies va garder ses aiguilles, même au chaud dans la maison.
Et le Norman, là, je sais pas, je vois souvent, moi, ils vendent des sapins Norman, ils disent qu'ils ne perdent pas les aiguilles. C'est un abies.
C'est un abies normaniana. Okay.
Un vrai sapin,
Donc un vrai sapin.
Ok.
L'épicéa, comme ça, inconvénient, il va perdre ses feuilles. Souvent, même s'il a les racines, il va falloir bien l'arroser. Et une fois qu'on a fini Noël avec un sapin qui a bien les racines, si on a un petit jardin, 9 fois sur 10, on va se dire quand même, on va aller le planter dehors.
Mais bien sûr.
Et avec les enfants.
Et oui.
Et 15 ans après, on a un arbre de 10 mètres de haut dans notre petit lotissement. Et c'est pas joli, on ne sait pas quoi en faire. Mais quand même, c'est un tel souvenir. Donc,
c'est ça.
Voilà, moi je suis un petit peu sceptique sur le fait de garder un sapin de Noël comme ça. Donc, a priori, à part l'odeur, moi c'est la seule qualité que je peux trouver pour un sapin de Noël vivant ou plus ou moins vivant.
Après, s'il est coupé, donc on a dit si vous le prenez avec les racines, effectivement, vous pouvez essayer de le remettre dans votre jardin, pas trop près de la maison.
Oui, attention, ça
devient
grand.
Mais bon, il faut avoir un grand jardin et puis surtout bien s'imaginer que cet arbre va devenir très grand. Évidemment. Voilà. Mais pour ceux qui l'ont acheté sans les racines, il va falloir s'en débarrasser après.
Après, maintenant, on fait des... quand on vend le sapin, il y avait des sacs avec.
Oui, des sacs à sapin.
Pour les récupérer. Des sacs à sapin.
Pour les récupérer.
Mais bon, alors là, c'est quand même aussi...
Sauf que c'est quand même un déchet vert, le sapin.
C'est un déchet. Il faut des grands conteneurs. Il faut des bennes pour arriver à récupérer tout ça, etc.
On a eu des déchetteries en Lozère qui récupèrent les déchets verts.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand on récupère les déchets verts, souvent, c'est pour en faire un compost ou autre. Et il faut savoir qu'un compost qui a plus de 10% de résineux est beaucoup, beaucoup moins bon. D'accord.
Bon, bah, alors tous ceux qui ont leur bac à compost tout neuf là, depuis le PLPD et qui se disent ben, « moi, je vais mettre mon sapin dans mon bac à compost », tu leur
c'est
dis quoi ?
Ce n'est pas obligatoirement une bonne idée.
Ce n'est pas une très bonne idée.
Non, ce n'est pas une bonne idée. Déjà, le bois va avoir du mal à se détruire. Et puis, les aiguilles vont sécher, mais ne vont pas apporter grand-chose à mon compost. Si alors, ce n'est de l'acidité.
Qu'est-ce donc, qu'on en fait, du coup, de notre sapin coupé ?
Donc, ben, notre sapin coupé, ce n'est pas une bonne idée,
non.
À mon sens. Il faut savoir, alors je n'essaierai pas d'aller dans le style le pauvre arbre, on l'a tué, etc. Sachez quand même que, en règle générale, ça vient de plantations de jeunes sapins qu'on va planter denses au départ et qu'on va sélectionner ensuite, qu'on va couper. Donc, c'est au lieu de les jeter, on les remet dans un circuit de vente.
Oui, puis ils sont cultivés pour ça, donc bon, voilà. À un moment donné.
Alors après, bah dans les sapins, on a aussi le sapin en plastique.
Alors le sapin en pétrole, raconte.
Ben, c'est comme tous les plastiques, hein, ouais. Tous les plastiques qui se retrouvent à un moment ou à un autre au fond des océans, dans le ventre des poissons, etc. Mm. Ça va suivre de toute façon la même chose, voire plus directement pour nous. Donc, ouais. c'est pas une bonne chose. Le plastique, on en fait des très élégants. L'avantage, c'est qu'on en achète un et puis on l'a pour 10 ans ou voire 15
20
ans.
20 ans, moi j'en ai gardé.
Si on le plie bien comme il faut, ouais. Etc. De plus en plus, on voit d'autres matériaux, qui,
oui.
Comme par exemple le fer, le bois.
Le carton.
Chez nous, on en fait un en carton cette ouais. année. Carton ondulé, avec, en fait, en 3D, comme ça. En règle générale, on met beaucoup de choses sur le sapin. Hein. Les enfants, ce qu'ils adorent, c'est mettre les boules, les guirlandes, les choses, etc. Donc, pourquoi pas partir de quelque chose d'assez simple et de le recouvrir comme ça. Ça fait Noël. Hein. Le tout, c'est guirlande électrique maintenant, choses comme ça. Voilà, ça fait Noël. Moi, bon. Quand j'étais petit, on allumait les bougies, mais je le conseille pas parce que ça, il y a quand même eu des feux qui se sont déclenchés comme ça.
Il vaut mieux les mettre autour.
Voilà, maintenant, on fait des guirlandes électriques avec des LED hein, qui dépensent quand même peu d'électricité.
Et puis, on va trouver de plus en plus de déco là, pour ces sapins en matière naturelle, en fait. Je pense oui. notamment à des guirlandes de boules en feutre de laine, des boules en feutre de laine, et qui sont vraiment très jolies, très colorées, et qui seront du plus bel effet sur votre sapin en bois ou en carton.
Mmh. Bah, même des petits personnages comme ça, en bois, ouais. etc., en papier, même en fer, en peindre, en découper, même en carton. Il y a plein de choses à faire. Au contraire, bah, peut-être mettre l'originalité en premier, plutôt que l'achat, quoi.
Ouais. Moi, j'en ai un très, très beau d'arbre, quand même, je tiens, depuis quelques années, parce que je tiens à souligner le travail de la personne qui l'a fait. Il s'agit d'Alison Ginoux, qui est ferronnière d'art à Langogne, et qui a, je ne sais plus, 3-4 ans en arrière, qui nous a fait des sapins en fer forgé, bien sûr, en fer, enfin, très, très beau. Et en fait, c'est hyper pratique, deux faces qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Uh-huh. Voilà, en croisement. Et du coup, donc, pour le ranger, ça prend zéro place. Bon, il n'est pas très grand, effectivement. Mais par contre, celui-là, je l'ai à vie. Il n'y a pas de souci. Comme il est petit, je ne peux pas mettre beaucoup de déco. Par contre, je décore la maison tout autour. Voilà. Et c'est très bien aussi comme ça.
Non, il y a toujours moyen. La fête, c'est ce qu'on en fait. Hein, et ce qu'on a dans les têtes. Et surtout, de le partager avec les enfants. Quoi.
On est bien d'accord.
Voilà, donc
on parlait de plastique justement avec notre oui. sapin, et c'est vrai que là, avec cette histoire de consommation, voire de surconsommation à Noël, posez-vous la question du plastique quand même, hein, parce que c'est vrai que dans les jouets, mais pas que, hein, dans toutes les petites babioles qu'on peut offrir, voilà, c'est, je pense qu'à un moment donné, avant de faire un cadeau, avant d'acheter, bah, c'est bien déjà un de se demander si la personne en a vraiment besoin ou envie, ou si vraiment on va taper dans le mille, ou si on n'est pas en train de se faire plaisir à soi-même en faisant un cadeau. Et puis voilà, toujours et quand même essayer de se poser la question de la durée de vie de l'objet, de son utilité, voilà, et de son recyclage quand même, hein, parce que
et oui,
alors... c'est quand même un peu la fête à Noël, hein, enfin la fête du plastique, quoi, tu vois.
Ben oui, faisons des achats éco-responsables.
Ouais.
Moi, il y a quelque chose que que j'ai fait au niveau familial, hein, avec les petits-enfants qui se succèdent ou autres, c'est de recycler. Hein, recycler ouais. des jouets comme ça, leur redonner vie comme ça. Moi, avec mes filles, par exemple, et ben, c'est arrivé que des poupées comme ça, on refasse toute une boîte avec une poupée qui existait déjà, des vêtements, des choses, etc. Et je vous garantis que le plaisir de l'enfant, c'est ce qu'on lui offre. C'est pas, et c'est le geste, c'est le cadeau. C'est pas obligatoirement et pas du tout ce que ça coûte. Un enfant pourra aussi bien s'amuser avec des jouets très simples, très sobres, très. Ben, il fut un temps, hein, c'était le bilboquet. Le bilboquet, c'était pas des jouets très chers, très compliqués.
Non, mais moi, ça me rend
je veux dire, moi, j'ai une fille qui a beaucoup, quand elle était toute petite, beaucoup joué avec un panier des pommes de terre.
Et oui.
À mettre les pommes de terre dans le panier, à revider le panier, à remettre les pommes de terre dans le panier. Alors, effectivement, on peut faire tout ça en plastique avec des couleurs, des machins. Mais voilà, à chacun de voir. Hein, on n'a pas le rôle de simplement d'ouverture d'esprit.
Essayer de réfléchir un petit peu à tout ça. Moi, je connais des familles qui, plutôt que de multiplier les cadeaux, finalement, ils font un espèce de tirage au sort et une personne va faire un cadeau à une seule personne. Tu vois, c'est des petits papiers à tirer au sort un peu avant Noël. Voilà, comme ça évite qu'une personne fasse un cadeau. Enfin, je sais pas, moi, si vous êtes 15 ou 20, on sait bien comment ça se passe. Parfois, vous dites, ah, ben, je vais prendre une boîte de chocolat pour un tel et un truc pour un tel. Pas forcément les chocolats les meilleurs. Et puis, une petite babiole. Et puis, on ne sait pas trop quoi prendre. Alors, on prend un peu n'importe quoi. Eh ben, au moins, en évitant de multiplier les cadeaux, on va plus facilement retrouver des cadeaux qui servent à quelque chose. Et voilà, on sort un peu de cet esprit de surconsommation. Et ça fait du bien quand même, hein.
Ça me paraît indispensable à l'époque dans laquelle on vit. J'ai entendu l'autre jour 9 100 000 personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Ben, peut-être qu'il faut y penser en France.
En France, ouais.
Rien qu'en France. Voilà. Et ben, peut-être qu'il faut y penser aussi pour se dire calmons-nous.
Voilà, calmons-nous et voilà, essayons d'être un petit peu généreux, y compris à l'extérieur de notre propre famille dans ces moments-là. C'est aussi là pour ça, ces périodes-là.
Voilà.
Hein? Ah, on est super moralisateur, Jackie. Aujourd'hui, c'est pas cool.
Oui.
Oh là là, désolé.
C'est pas cool. Je pensais quand même à une petite chose aussi.
Ouais.
C'est se dire quand on a chez soi des jouets pour parce que les enfants ont grandi, etc. De pas hésiter aussi à les amener ou chez Emmaüs ou au Secours Populaire.
La ressourcerie, la récup sur le poste d'Ojamande, bien sûr.
Ce qui va pouvoir profiter à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter ça neuf.
Et puis ça sert à rien.
Et puis ça fait tellement plaisir de se dire, on aura peut-être gagné le sourire d'un enfant qu'on n'aura pas obligatoirement vu, mais pour soi, ça fait du bien.
Exactement. Il y a aussi les associations, effectivement, qui font des campagnes de récupération, là, de jouets un petit peu avant Noël, tout ça, et qui ensuite redistribuent. Donc, voyez, soyez un petit peu attentifs à tout ça. Et c'est vrai que si vous avez des choses à éliminer, plutôt que de choisir le conteneur devant chez vous, demandez-vous si ça ne peut pas avoir une deuxième vie.
Voilà. Bon, alors là, oui, effectivement, on est un peu moralisateur, etc. C'est pas du tout le but, hein. J'espère que...
Non, mais si t'aimes bien, Jackie, toi, allez, dis-le.
et peut-être on va aborder quelque chose d'un petit peu plus souriant quand même. Dévalorisons pas la fête de Noël, hein. Profitez bien, ça c'est quand même très important et surtout profitez bien en famille.
Pour resserrer les liens.
Voilà, maintenant tu nous parles d'une société immobilière.
Ah oui, c'est vrai, j'avais trouvé ça intéressant, oui, comme initiative. Ben, c'est pas très loin puisque c'est à Crest, dans la Drôme, pas très loin de chez vous. Une société immobilière à but solidaire. Ça s'appelle Village Vivant au pluriel. C'est Sylvain Dumas qui est co-gérant de cette société, Village Vivant, qui a été lauréat en 2019 de la fondation La France s'engage. Et c'est une société immobilière qui est complètement nouvelle sur la forme, puisqu'en fait, son objet, c'est de racheter les vieux commerces dans les villages ou au cœur des petites villes pour y installer des activités innovantes.
Oui, ça, c'est quand même... On sait qu'un petit peu partout, les commerces de centre-ville se ferment, etc. C'est une chouette initiative, ça.
C'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de en fait, le Village Vivant rachète les boutiques vides, pour revitaliser. En fait, l'idée, c'est de revitaliser les villages, évidemment. Hein. Et donc, elle rachète les boutiques vides, elle les rénove et ensuite, elle les loue à des loyers préférentiels à des porteurs de projets qui proposent essentiellement des activités à fort impact social pour que les habitants s'investissent dans le maintien de cette nouvelle activité.
Encore plus intéressant.
C'est intéressant. Hein. Donc là, on est vraiment en train de réinventer un mode de gestion et des modes d'entreprise et en s'appuyant sur des statuts qui sont coopératifs, donc où tout le monde participe, où tout le monde est impliqué. Ça crée une dynamique locale. Je trouve que c'est sympa quand même comme initiative. Hein.
Oui, une belle initiative. Moi, je pense à beaucoup d'endroits comme ça, où ça pourrait... Alors, je ne sais pas après comment ils fonctionnent, si c'est les mairies qui doivent demander, si eux essayent de voir à tel ou tel endroit. Mais voilà, ça mérite en tout cas d'être creusé. Et donc, dans l'installation, tu as des précisions là-dessus. Qui peut vraiment le faire? Des artisans, des...
Alors, qui peut vraiment le faire? Bon, en fait, grosso modo, c'est cette société-là qui décide un petit peu de ce qu'elle va racheter comme commerce, hein, d'après ce que j'ai compris. Ceci dit, il s'agit là d'un modèle économique qu'il faut recopier, absolument. Oui. Donc, c'est une première initiative, finalement. Et si j'en parle là aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble que si ça fait des petits, ça peut être très, très bien. Tu vois, par exemple, ils ont créé, entre autres, une librairie collaborative, une épicerie de produits de producteurs locaux uniquement. Mmh. Et là, ils viennent d'investir, Village Vivant, dans la rénovation d'une auberge à Boffre. Boffre, c'est un village féodal du XIIe siècle, entouré de châtaigniers et de forêts de pins en Ardèche. Donc voilà, on est vraiment sur des petites niches et c'est intéressant.
Oui, mais si tout le monde au niveau local se sent concerné et puis effectivement fait travailler ces nouveaux commerces comme ça, c'est gagnant pour tout le monde, quoi.
Et puis après, l'initiative peut être copiée même à plein d'échelles, pas forcément en créant une société immobilière. L'initiative peut être copiée par des collectivités, par des communes, par des gens qui ont un petit peu d'argent, qui ne savent pas quoi en faire, tiens. Voilà, en fait, il y a plein de choses à faire pour redynamiser nos villages et nos petites villes. Donc, n'hésitez pas à vous investir, citoyens que vous êtes, parce que c'est important. Il faut que ça vive, tout ça. Il faut qu'il y ait du lien social. Il faut que les gens se parlent et sortent de chez eux.
Voilà, oui, puis que en fait, on redonne du sens un petit peu à tout ça. En fait, on est quand même dans une impasse au niveau trop de commerce, développement des grandes surfaces ou des choses comme ça, qui en fait ont vidé aussi les centres-villes, etc. Qu'est-ce qu'on fait autour de ça? On peut pas à la fois se plaindre et puis continuer à ne rien faire et puis aller faire ses courses au supermarché, quoi.
C'est ça. Essayons chacun à notre niveau de faire bouger un petit peu les choses. Quand on peut le faire, c'est bien, quoi. Voilà.
Bon, je ne sais pas si c'est...
Tu veux un peu de musique maintenant?
Oui.
J'ai changé d'avis, j'ai le droit?
Oui.
Bah oui, parce que quand on approche de Noël, je me suis dit que je repasserais bien la petite chanson d'Elmer Footbeat. Le plastique, c'est dramatique.
Ah bah, ça irait bien là-dessus.
C'est pas mal, non? Allez, on se la réécoute.
Allez,
on l'avait écouté déjà une fois dans l'émission, mais il y a longtemps, vous avez oublié. Allez, les revoici, Elmer Footbeat, le plastique, c'est dramatique.
Bang, bang, t'as le cœur à l'envers, tous ces déchets qui finissent au fond des criques. Tu sais que pour sauver la mer, il faudrait en finir avec le plastique. Bang bang, si t'as besoin de potes, lorsqu'il est temps de passer à l'action, prends tes copains, remue-toi la culotte, si tu veux aller nettoyer les gros fonds. D'abord il faudrait des bateaux écolos, toute une flottille pour nettoyer les eaux. C'est sûrement là que se trouve la solution, si demain tu veux admirer les poissons. Tous en manta avec Yvan Bourdion. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, c'est une question de respect. Sauvons la mer de nos rejets. connu ce qui se passe sur nos côtes. On vaut mieux que ça, c'est dans notre intérêt. Il faut de suite affêter plein de bateaux. Garde ton presse, on est pris par le coup. Fais pas comme si tu l'avais pas su plus tôt. Si demain tu veux admirer les poissons, bienvenue au club avec Yvan Bourgnon. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. Nous l'affirmons sans problème, oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. C'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Et puis ne serait-il pas un peu trop facile de taire la chose, de ne rien faire jusqu'au bout, sans se faire biaiser, sans jouer les victimes. Faut prendre ses gants, on est dans jusqu'au cou. Avec nous le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. Nous l'affirmons sans problème, oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. C'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastoc c'est super moche.
Voilà, voilà, j'espère que vous avez bien retenu la leçon.
Et donc,
bon, ils sont rigolos, ces gars des mères
coupées. La question de la petite Léa.
Et alors, aujourd'hui, nous avons une question d'auditrice à nouveau. Nous avons beau faire des appels du pied insistants auprès des auditeurs pour qu'eux aussi se mettent à poser des questions. N'empêche que voilà, c'est toujours féminin. Alors voilà, cette fois-ci, c'est Léa qui a une question à nous poser et elle va même nous la poser en direct. Nous t'écoutons, Léa.
Alors moi, j'aurais aimé savoir comment on s'occupe des plantes d'intérieur, parce que j'ai beau en acheter et faire tout ce que je peux pour qu'elles survivent, et bien elles finissent toujours par mourir. Donc qu'est-ce que je peux faire pour avoir des plantes d'intérieur chez moi ?
Bon, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour notre amie Léa, Jackie ? Qu'est-ce que tu en dis ?
Mais on va essayer de répondre à la question comme si c'était plusieurs questions, en fait.
Parce oui, c'est que un peu ça quand
il
même.
Faut,
hein.
Il faut arriver. La question est tellement large. voilà. Comment est-ce que je vais m'y prendre ? D'abord, de préciser que les plantes d'appartement sont en fait toutes issues de plantes sauvages.
Bien sûr.
Ce sont des plantes de sous-bois. Hein, quand on va dans des pays un peu lointains, moi j'avais été étonné comme ça, au Mexique en particulier, de voir nos plantes d'appartement qu'on avait dans un pot qui faisait 80 cm.
en modèle géant.
Un philodendron ou un truc, c'était une liane de 25 mètres,
c'est ça.
etc. Donc il faut déjà savoir ça. Déjà savoir que donc, ça veut dire que ce sont des plantes qui vivent dans une espèce de microclimat déjà.
Oui, ailleurs.
Voilà, ailleurs. Et il faudrait. Donc, c'est ailleurs, il faudra essayer de recréer ce microclimat un peu. C'est pour ça que ça marche très bien en serre, parce qu'en serre, on arrive bien à recréer des microclimats. Rien que pour continuer sur cet exemple du Mexique, là, moi, j'étais allé, c'était mon premier voyage loin à l'étranger. La première des choses, quand on voyait tous les nuages et tout, j'étais parti de l'hôtel avec un parapluie. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faisait entre 30 et 35 degrés, donc on était en t-shirt avec un parapluie.
Un peu protégé du soleil aussi.
Oui. Et donc,
qu'on n'aille pas la sole.
Ce qu'il y a, c'est que, comme inévitablement et comme prévu, la flotte arrive. Mais alors, dans ces pays-là, ça veut dire que ça vient très vite. Ça veut dire que le parapluie, déjà, il est à l'envers parce que ça vient avec un coup de vent. Donc, on essaye, européen comme ça, de bien replier son parapluie, machin et tout. Pendant tout ce temps-là, on se mouille, puis ça y est, le nuage est passé.
Et le Mexicain rigole.
Après, on marche pendant 5 minutes. Ah oui, mais on est sec. Donc, ça a été la dernière fois qu'on a amené un parapluie parce que ça ne sert à rien.
Et oui.
Alors, tout ça... pour l'anecdote, mais en même temps pour dire aussi que dans un climat tempéré, ça veut dire chaud et humide.
Oui.
Nos appartements souvent sont secs. Donc déjà, chaud, c'est relativement facile, mais sec, c'est pas obligatoirement facile.
Ouais.
Donc comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien, pour que la plante bénéficie quand même d'une certaine humidité, il faut pulvériser régulièrement le feuillage. Donc, alors pulvériser, on va pas le faire avec l'eau du robinet qui peut être calcaire. Donc on va le faire avec de l'eau de pluie. Si on n'a pas de l'eau de pluie, eh ben on peut très bien, quand on dégivre son frigo, l'eau qui en résulte n'a pas de calcaire dedans.
Ah bon ?
Eh oui, ça peut faire la même chose que l'eau de pluie, parce que c'est de l'eau d'évaporation. Et donc l'eau d'évaporation, regarde, sur n'importe quelle eau, même une eau du robinet, si tu la laisses évaporer, tu le fais comme ça, par exemple, dans une casserole, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte qu'autour, tout est blanc.
Oui.
Pourquoi ? Parce que le calcaire est resté et l'eau
qui est
évaporée...
C'est déposé et l'eau est partie, voilà. Sans le calcaire parti.
Voilà,
c'est
donc
trop
comme
lourd.
De l'eau de pluie.
Ouais, hein, d'accord.
Donc voilà, c'est un moyen. Donc ça, c'est des choses à faire. Déjà, voilà, se dire... je vais essayer de recréer les conditions optimum dans lesquelles vit cette plante.
Ouais.
Donc, plantes d'intérieur, il y en a beaucoup. En règle générale, il faut essayer de, quand on achète ou même quand on se le fait payer, de dire quand même quand quelqu'un doit acheter une plante chez le fleuriste, hein, puisque là, dans les plantes d'appartement, c'est vraiment ça qui se passe, on peut aussi demander une plante qui prend très facilement, une plante facile d'entretien.
Bien sûr.
Donc, ça paraît tout bête comme ça, mais c'est pas, alors, ce ne sera pas obligatoirement la plante la plus jolie dans le magasin, mais il faut commencer comme ça.
Oui.
Et une fois que je suis sûr que je maîtriserai ça, eh ben, je vais peut-être pouvoir me payer telle ou telle plante voilà, avec des conditions particulières.
Je peux en conseiller une pour démarrer,
oui,
qui est facile.
Oui, mais vas-y, au contraire.
Eh ben, je parlerai une très facile, le spatifilum.
Voilà.
Voilà, ça fait des grandes feuilles qui partent de terre, ça fait des fleurs blanches, c'est pas moche. Et en plus, c'est une plante dépolluante. Le spatifilum, c'est super facile. Quand il a soif, les feuilles retombent.
Oui.
Vous lui mettez un peu d'eau, 2 heures après, il est reparti, terminé.
Voilà, ça fait partie des plantes facile d'entretien comme
très
ça.
Très facile.
Alors lui, en plus...
Et peu exigeante en plus. Hein.
Voilà, l'avantage, c'est qu'on n'est même pas obligé de pulvériser
non.
Tout le temps. Bon, par contre, il y a des trucs tout bêtes. Hein. Derrière un pot, mettre une gamelle d'eau, ça veut dire que derrière ce pot, je vais recréer une espèce de petit microclimat aussi, parce que cette eau va s'évaporer.
C'est malin.
C'est caché derrière le pot. Voilà, je repars toujours de... Comment est-ce qu'il est dans son pays ? Comment est-ce qu'il est à l'origine ?
Et puis aussi, ce à quoi il faut faire attention, c'est à la luminosité de la maison. Justement, je parlais du spatifilum, parce que même si vous n'avez pas une maison très lumineuse, ça va fonctionner.
Les plantes d'appartement sont la plupart du temps des plantes de sous-bois. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc ils ont besoin de lumière, mais surtout pas de...
Pas de soleil direct, mais de lumière, elles en ont besoin.
Voilà, parce que c'est ça qui va les aider à faire leur photosynthèse, donc à pousser, hein, en quelque sorte.
C'est ça.
Donc, il y a des plantes comme ça assez faciles. Hein, le ficus benjamina, par exemple, hein, c'est un petit arbuste comme ça. Alors, chez nous, c'est un petit arbuste. Hein, j'ai vu ça aussi.
Ah oui, mais au Népal, j'en ai croisé, ils sont un peu gros. Hein.
J'en ai vu au Mexique aussi, où on a...
C'est énorme.
Et non seulement c'est énorme, mais c'est magnifique, parce que les racines sont quasiment aériennes, sur les cailloux, etc. Ce sont des très, très grands arbres. J'ai même vu des chauves-souris dedans. Alors, j'étais d'abord très étonné. Une chauve-souris qui volait comme ça autour du ficus. Et puis après, je me suis dit, mais ficus, c'est la même famille. Tu vois, quand on cherche des fois les noms botaniques, ficus, c'est la même famille que le figuier.
Ouais.
Et donc,
oui, c'est un figuier, exact.
C'est
me l'avais dit, mon
c'est
fils.
Un figuier.
Oui.
Et donc, quand il a des fruits mûrs, les grandes chauves-souris du coin là-bas sont frugivores. Donc, elles venaient manger les fruits dans cet arbre. Alors, revenons.
Moi, j'ai vu des bouddhas dedans, pas des.
Voilà.
revenons ça dépend où on le trouve, le ficus.
Revenons à celui qu'on peut trouver donc par chez nous.
Ouais.
C'est des plantes qui sont pas trop chères. Je conseillerais aussi d'acheter des plantes petites quand on démarre.
Oui.
Eh ben, il faut mieux commencer, parce que des grosses plantes, c'est très sympa, mais ça coûte cher. Et donc, oui. quand elle crève, là,
ça
fait râler, ça fait mal. Y a une petite plante que j'aime bien aussi, qui est facile. C'est une plante qui ressemble un peu à une fougère, comme un petit palmier. C'est le cantia. Alors, c'est écrit K-E-N-T-I-A. Donc ça, c'est une plante qui est très décorative et qui n'est pas très compliquée non plus à élever. Mmh. Voilà, ça déjà,
c'est des pistes.
Après, il va pouvoir y avoir des plantes qui ont d'autres caractéristiques, qui vont, par exemple, des plantes à fleurs.
Je suis la reine de l'orchidée, Jackie.
Voilà.
Tu le sais, ça ?
Alors, non, je ne le sais pas, mais tu vas nous expliquer ça.
Ouais. Eh ben en fait, les orchidées, c'est marrant parce que moi, ça faisait des années que j'en avais et j'y arrivais pas. Alors, on m'avait dit, oui, quand elle a fait la fleur, tu coupes la tige aux deux tiers, très exactement, en dessous du machin truc. On m'avait dit, tu les fais tremper parce qu'elles sont dans des écorces. Hein, les racines d'orchidées sont dans de l'écorce. Il faut absolument un pot transparent et puis tu les fais tremper une fois par semaine. Tu les égouttes bien et ensuite, tu les remets patati patata. Ça fonctionnait jamais. Jamais. J'ai eu même mis des sachets de thé bio, bien sûr, qui soi-disant étaient leur engrais préféré. Donc, je leur avais disposé des sachets de thé. Je leur ai tout fait à ces orchidées. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Et puis, un jour, je vais chez une copine qui n'est pas très plante, mais qui avait des orchidées magnifiques. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais à tes orchidées? Elle m'a dit, ben, rien. J'ai dit, ok. C'est-à-dire, elle m'a dit, oh, ben, je jette un verre d'eau à peu près une fois par semaine quand j'y pense. Et elles sont derrière la fenêtre. C'est tout.
Voilà, l'exposition.
Et là, voilà. Et le derrière la fenêtre, c'était pas rien qu'elle faisait, en fait. Mmh. C'est que l'orchidée, il faut absolument qu'elle soit derrière une fenêtre. Pas au soleil direct, comme tu disais tout à l'heure, Jackie, mais derrière une fenêtre. Vous la mettez derrière une fenêtre. Moi, j'ai pas de pot transparent. Ça a pas l'air du tout de leur poser problème, puisqu'elles refleurissent tout le temps. Mmh. Et couper la tige qui a fleuri, peu importe. Là, j'en ai une qui vient de finir de fleurir. J'ai pas eu le temps de la couper, que j'en ai deux qui sont reparties de cette même tige. Donc non, j'attends que vraiment elle ait fini de fleurir et je la coupe au pied directement. De toute façon, la tige repartira d'ailleurs. Mmh. C'est ce que j'ai constaté. Et puis voilà, un peu d'eau une fois par semaine, terminé. Alors par contre, moi j'ai remarqué un truc qui fonctionne très bien sur les plantes d'intérieur. C'était un conseil que m'avait donné, pareil, quand j'étais jeune. Au début, j'y arrivais pas trop. Et puis ma propriétaire...
T'es toujours jeune.
Oui, merci Jackie. Et ma propriétaire à l'époque m'avait expliqué... m'avait dit, oh ben non, mais les plantes d'intérieur, il faut que tu les laisses toujours au même endroit et tu les arroses toujours le même jour de la semaine. J'avais dit, bon, ben pourquoi pas, je vais essayer ça. Et effectivement, j'ai pris cette habitude-là. Une plante, quand vous avez trouvé sa place à l'intérieur de votre maison, quand vous avez l'impression qu'elle se sent, enfin, à moins que vraiment elle périclite sur l'endroit où vous l'avez mis, vous ne la changez pas d'endroit, vous la laissez toujours au même endroit. Et effectivement, un arrosage très régulier. Si je pars en vacances 15 jours, elles ne vont pas avoir leur arrosage hebdomadaire, mais ce n'est pas grave, un peu de stress hydrique, ça ne leur fait pas de mal de temps en temps. Et ça repart, et voilà.
Là, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis, parce que, comme d'habitude, hein, mais...
je te remercie, Jackie.
Dans cette histoire d'orchidée derrière une fenêtre, ce qui est important aussi, quand on en a plusieurs, quand on aime ça, parce qu'en plus, c'est devenu quelque chose de très abordable maintenant, hein, les orchidées, c'est qu'il faut trouver quelle est la fenêtre qui va le mieux, c'est-à-dire quelle est l'exposition qui va le mieux. Souvent, moi, j'ai des fenêtres à l'est, comme ça correspond très bien, parce que c'est le soleil du matin. Même s'il y a un peu de soleil, un peu de lumière, ça va être le soleil du matin, donc c'est très diffus comme ça. Donc ça, c'est une bonne chose. On va se dire, bah, tiens, les orchidées, c'est là qu'elles vont bien. Le spatifilum, c'est là qu'il va bien. Telle autre plante, c'est là qu'elle va bien. Donc ces orchidées, en fait, ce sont des phalaenopsis là, hein, dont tu nous parles. Elles vont refleurir effectivement. L'idée de l'arrosage hebdomadaire le même jour, ça a aussi une importance énorme, je trouve.
Ah oui,
c'est qu'on les oublie pas.
Ah, ça, c'est sûr. C'est, au départ, c'est ça l'idée, voilà, effectivement.
Voilà, parce
c'est
que raison. Beaucoup de gens, moi, m'ont dit, oh, ben, ça crève et tout. Mais oui, tu l'arroses tous les combien? Ah, ben, je ne sais pas quand j'y pense.
Ouais, ou alors et ça ben, dépend.
Quand on y pense, ça ne va pas. Parce que si on a des soucis, on ne va pas penser à ça. Ou si on est tourné vers une autre partie de la maison, on ne va pas penser à ça.
Ouais.
Or, si on se dit, ben, en plus, ça peut être, ben, tiens, telle partie de la maison, c'est tel jour, parce que je ne veux pas tout faire dans la journée, la maison est grande ou autre. Mais voilà, et avoir un jour comme ça, c'est très important. Ça équilibre. Pourquoi ? Parce que dans les plantes du jardin, on a moins de soucis, en règle générale, parce que on a une masse au niveau de la terre, on a une masse énorme. Donc, en fait, on n'a pas une terre qui, d'un seul coup, est très mouillée, d'un seul coup, est sèche, d'un seul coup, est très mouillée. Voilà. Et donc, les plantes, en fait, une plante a la horreur des changements, que ce soit de la température, que ce soit de l'humidité, etc. Si je les arrose régulièrement, j'ai jamais un coup trop d'eau, un coup pas assez. Et ça, je crois que c'est très, très important. Une plante, elle peut pas trop gérer ça, surtout au niveau de ses racines. Pour revenir aux pots transparents, effectivement, moi, même si on les achète souvent comme ça, je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'importance. Ce qui compte, c'est de comprendre que les racines, ce sont des plantes épiphytes, les orchidées, c'est-à-dire qu'elles poussent sur l'arbre, mais pas obligatoirement dans un trou, dans un endroit où il y a de la terre, etc. Ça peut être le long de l'écorce. J'en ai vu au Mexique sur un fil électrique.
Oh.
Pour donner une idée, là, on voit bien que donc il n'y a pas de substrat. Il n'y a rien autour. Hein. Ouais. Les écorces sont là pour maintenir ma plante.
Ouais.
Mais en fait, il faut savoir que c'est pas le sol qui va absorber et le restituer aux racines par l'intermédiaire des champignons qu'il peut y avoir. Mais les racines sont poreuses. Les racines sont d'ailleurs un petit peu grosses comme ça et prennent l'eau directement.
Oui.
Et donc, en fait, ce sont des plantes qui se nourrissent, on disait, de l'air du temps et de l'humidité ambiante. C'est-à-dire que dans les régions où ça pousse comme ça, il y a une humidité ambiante constante et il y a beaucoup de petites poussières qui sont en suspension dans l'air et c'est ça aussi qui va les nourrir.
Puis c'est costaud l'orchidée. Moi, tu sais où je les ai vus ? Oh, ben on n'est pas le pareil, il y a comme les ficus géants là. Dans les forêts de rhododendrons, on a les orchidées accrochées au tronc. Oui. Et effectivement, le rhododendron, on voit encore une plante qui chez nous est plutôt naine, qui là-bas fait de très grands arbres. Alors, des rhododendrons, tiens.
Oui, ça change tout. Mais bon, c'est le fait de déplacer des plantes, de bien comprendre qu'il y a des biotopes qui sont plus intéressants. C'est le camélia, par exemple. Bah, ici, en Lozère, on a de grandes difficultés à avoir des camélias pour arriver à avoir une plante de 50 cm en pot, etc. Vous allez en Bretagne, vous jouez dans les arbres de camélia.
C'est ça.
Donc, voilà. Et c'est là où je disais l'importance de connaître un peu le climat dans lequel il faut que ça évolue.
Ouais.
Le problème qu'on a en tant que jardinier, c'est qu'on va toujours essayer de chercher quelque chose de difficile. C'est pour ça que je reviens toujours à la facilité.
Des défis.
À Montpellier, on veut du gazon et en Lozère, on veut des citrons. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois, c'est un challenge.
Ouais.
Donc, on commence doucement. Il y a des plantes simples après, calanchoé, des plantes comme ça. Les conseils sont bons. Là, un arrosage par semaine. Après, on va le doser. On va en mettre plus ou moins. On va voir ce dont la plante a besoin. Quand la plante se porte bien, il y a une saisonnalité. On va la laisser se reposer un peu pendant l'hiver. La laisser reposer, ça veut dire qu'on arrose moins, tous les 15 jours, voire tous les 3 semaines. Mais par contre, dès que le printemps va arriver, on va réarroser et puis on va pouvoir mettre un petit peu d'engrais, d'amendement. L'engrais,
de l'urine.
Ou de l'urine, une solution d'urine. Hein, on rappelle aussi à 10%, mais ça peut aussi être du sang desséché. Dans le temps, chez les bouchers, on trouvait du sang desséché.
Et oui, le sang de bœuf.
Très bon engrais pour de démarrage. Et puis ensuite, après, on a de la corne torréfiée, par exemple, qu'on peut mettre aussi. Parce que moi, j'aime bien avoir ça à la maison, parce qu'en plus des plantes d'appartement, j'ai des citrus, citronniers, orangers, etc. Et comme on va manger les fruits, c'est bien d'avoir des amendements qui sont tout à fait sains.
C'est mieux, ouais.
Voilà, j'espère qu'on a un petit peu répondu à la question de Léa. Donc,
elle va nous servir d'expérimentation, Léa. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Jackie ?
Léa va essayer de mettre en pratique nos conseils et puis on vous dira au fur et à mesure si ça marche. Peut-être on pourra l'inviter pour qu'elle nous dise si ça marche.
Elle viendra nous raconter si elle y arrive ou pas avec tes conseils. Alors, on vous souhaite une très belle fin d'année 2019. Hein.
Et puis, à l'année prochaine.
À l'année prochaine, passez de bonnes fêtes de fin d'année. À très vite.
À très vite, vous allez nous manquer.
Au revoir.
entre manantiales vive. Jazmines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie, nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste.
Estimes.